L'Afrique enchantée.
Ah, c'est bon les vacances. Le soleil, le sable fin, les rires des enfants qui s'égayent dans les vagues. On n'est pas bien là.
Mais attends, qu'est-ce que tu racontes là? On n'est pas en vacances. On réfléchit, on médite, on infuse. Et on prépare la rentrée prochaine.
On vous a d'ailleurs laissé quelques-unes de nos Afriques enchantées préférées à réécouter chaque dimanche.
L'Afrique enchantée, tous les dimanches à 17h. France Inter.
La différence.
Là-bas, si j'y suis, c'est l'heure de retrouver Daniel Mermet.
Bonjour, Aurore de Paris. Eh bien, c'est juste pour vous dire que je trouvais qu'il y avait plein de choses de tout pourri dans la vie. Et puis, ma petite Lucie est née et d'un seul coup, la vie est devenue beaucoup plus jolie. Voilà, alors faites des enfants et vous verrez comme le monde, c'est beau et ça change. Merci.
Ben ça y est, on va tous crever. Mais nous, les vieux écolos, on va crever aussi. Nous, les passéistes du retour à la bougie, etc., on va crever pareil. Mais nous, on va crever contents, parce qu'on aura eu raison. C'était Michel dans les Ardennes.
Oui, pour Monsieur Mermet, il vaut mieux parler des Jeux Olympiques qui auront peut-être lieu en 2018 à Annecy, mais il ne se passe rien en Libye. Pas du tout, pensez-vous. C'est vrai que ce gangster de Kadhafi a le soutien, le seul soutien dans le monde de Monsieur Hugo Chavez. Alors c'est peut-être une des raisons.
Voilà, trois échantillons de messages reçus au cours de cette saison dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis. On continue, deuxième partie des répondeurs d'or, c'est-à-dire les messages que vous laissez chaque jour dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis et que nous écoutons soigneusement avec nos grandes oreilles, Marina et moi. Et on en garde quelques-uns, on s'en met quelques-uns de côté en se disant « Celui-là, il est vraiment formidable, celui-là, il est étonnant, celui-là, il est surprenant, etc. Et celui-là, il est complètement stupide. » Alors, gardons-le. Et donc, aujourd'hui, voilà, c'est la deuxième partie. Ce qui est intéressant quand même dans tout ça, c'est que qui eût cru, il y a un an, exactement un an, à tout ce qui s'est passé depuis un an, hein ? Quand on y pense, la révolution arabe, la Tunisie qui vire Ben Ali, l'Égypte, la Syrie, la Libye, le Yémen, qui aurait prévu ça il y a un an? Qui aurait prédit les manifestations et les grèves en octobre en France? 2 millions de Français dans les rues, 5, 6, 7 fois de suite, c'est quand même extraordinaire. Et qui aurait cru alors que ça préfigurait ce qui allait ensuite se passer en Espagne, à Madrid, à Barcelone et maintenant partout à travers l'Espagne. Qui aurait prévu ça? Qui a prévu la catastrophe de Fukushima? Qui est en train de remettre en cause l'industrie nucléaire à travers le monde? Et puis qui a prévu, qui aurait prévu la mort de Ben Laden, l'affaire DSK, etc., la Grèce et le reste? Tout ça fait que, bien sûr, ça donne envie de continuer. Ça donne envie de continuer pour pouvoir vivre et raconter tout ça, parce que c'est quand même l'imprévisible qui est le meilleur adversaire de la résignation, puisque, on le voit là, tout n'est pas possible, mais beaucoup de choses sont possibles et beaucoup de choses sont surprenantes. La règle des médias, on la connaît, c'est ni queue ni tête. Il y a l'événement, mais il n'a pas de queue et il n'a pas de tête. Et tout le travail qui nous incombe, à nous autres, les citoyens, c'est d'essayer de voir d'où ça vient et où ça va, comment ça pense et quelle est l'origine, c'est-à-dire contextualiser un peu tout ça. Et bien c'est ce qui se passe un peu dans le répondeur de là-bas, si j'y suis, pour peu qu'on le réécoute comme ça au fil d'une année, parce que ces événements, eh bien, vous les traduisez à votre façon, avec votre style, avec vos mots, avec votre ton, avec vos rages, avec vos émotions, avec vos avis parfois extrêmement judicieux, bien informés, dans le répondeur de là-bas, si j'y suis. Et vous allez voir ce que ça fait de revenir comme ça. C'est pas bien vieux, la période dont nous parlons, c'est une saison, c'est les 10 derniers mois. Mais il y a quelque chose, des choses que nous avons vues, vécues ensemble et que vous avez racontées à votre façon. non médiatique, enfin en tous les cas hors du langage médiatique. Et puis, comme hier, pour bien prouver qu'il n'y a pas que des inconditionnels qui écoutent cette émission chaque jour, il y a aussi ceux qui ne sont pas d'accord du tout avec nous, voire ceux qui ne nous aiment pas du tout, que vous allez rencontrer voilà, au cours du chemin jusqu'à 16h, le répondeur d'or de la saison de la basse jésuite.
C'est tout de même pas à cause du Front National qu'il y a 4 millions de chômeurs. C'est tout de même pas à cause du Front National que l'âge de la retraite a été reculé à 65 ans. C'est tout de même pas à cause du Front National que Dominique Strauss-Kahn tue les pays pauvres avec le FMI. C'est tout de même pas à cause du Front National que Jacques Chirac échappe à la justice depuis 20 ans. C'est tout de même pas à cause du Front National qu'Alain Juppé, qui a trempé dans les magouilles du RPR, est revenu au gouvernement. C'est tout de même pas à cause du Front National que le pouvoir d'achat des Français a fortement baissé depuis l'euro. C'est tout de même pas à cause du Front National que Jacques Delors a épousé les idées libérales de Thatcher et de Reagan. Alors, les politiciens du Parti Socialiste et de l'UMP, au lieu de perdre votre énergie à diaboliser le Front National, ce qui ne sert à rien, arrêtez tous vos magouilles et travaillez pour le pays. Sortez intelligemment du libéralisme et vous verrez que ce sera la seule façon d'affaiblir très fortement le Front National.
Oui, salut toute l'équipe de là-bas. Alors j'ai lu un petit article dans Libération ce matin et puis j'arrête pas de rigoler depuis que j'y pense. C'est l'éditorial de Nicolas Demorand, voilà, l'éditorial Nicolas Demorand, un petit nouveau à Libération, et c'est Libé du week-end dernier, du 12 et du 13. Alors dans son édito, je vous le lis, ailleurs qu'au Japon, blablabla, blablabla, les choses auraient été bien pires. Qu'on se souvienne des 250 000 morts d'Haïti il y a un an. Preuve que le développement économique est encore la meilleure arme pour limiter les conséquences d'un séisme. Preuve que le développement économique est encore la meilleure arme pour limiter les conséquences d'un séisme. Ah, il a l'air bien drôle, c'est Nicolas Demorand. Ciao, ciao, à bientôt.
C'est Michel en Corrèze. Le 25 février est décédé Daniel, 2LE. Elle y tenait beaucoup. Ça n'a pas fait la une, quelques lignes, dans les pages d'état civil du journal local. C'était quelqu'un de formidable. Un peu sorcière. Mais elle aimait le monde. Les enfants, les animaux. La souffrance des autres était sa souffrance. Sans concession. Artiste. La musique, la peinture. Elle collectionnait aussi des choses simples, comme elle. Elle adorait les chats. Elle en avait 30. Et un âne. Elle disait toujours, tu diras du bien de moi quand je serai morte. Elle avait raison. Je vous l'ai dit, elle était un peu sorcière. C'est une chouette nana. C'était ma femme.
Ah bah ça tourne beaucoup mieux sur la moto, hein. Une intro au piano de Hank, un coup de batterie d'Arc Blackie, le groupe des frères Jones, c'est quand même autre chose. Something Else titrait l'album de Cannonball Adderley. C'est la trompette de Mike. Bah ouais. Merci, bye bye.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la place où je suis. Les répondeurs d'or. Flight number 2, arriving from...
Là-bas, si j'y suis, 11 janvier 2011, insurrection du peuple tunisien.
Allô ?
Ah, Radia !
Oui, Daniel, oui. Les flics viennent de nous disperser. À peine nous sommes arrivés sur la place, des centaines de flics sont venus nous agresser, nous disperser. J'ai été moi-même brutalisée. Des coups de matraque et des coups de poing et tout.
On va passer au j'aime, j'aime pas. Vous allez me dire si vous aimez ou si vous n'aimez pas la prudence de Paris à propos de la Tunisie.
Canal Plus.
Et de son gouvernement.
11 janvier 2011.
Non, je crois que...
Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture.
Le président Ben Ali est quelqu'un qui est souvent mal jugé, qui a fait beaucoup de choses. Alors on peut critiquer après certains aspects. avant de juger un gouvernement étranger, mieux vaut bien connaître la situation sur le terrain et savoir exactement pour quelles raisons telle ou telle décision a été prise.
Pour vous, c'est une démocratie ?
Je n'ai pas à qualifier le régime tunisien.
Bah, c'est ce que font les Tunisiens aujourd'hui dans la rue ?
Oui, mais c'est les Tunisiens. Moi, je suis français, je n'ai pas à juger de l'extérieur, comme ça, un gouvernement étranger.
Allô, oui ?
Oui, à ma mamie ?
Oui, c'est bien moi, oui. Au début, c'était des chômeurs. Mais de plus en plus, le mouvement est devenu un mouvement à caractère populaire. Il y a les chômeurs, il y a des fonctionnaires, des étudiants, des élèves, des avocats. C'est un mouvement très très large, puisque le chômage est un fléau national, la cherté de la vie, le problème de la corruption, mais aussi la répression politique.
Siem. C'est Daniel.
Salut Daniel.
Oui, alors dis-moi...
Mabrouk Alina, Mabrouk Hafina, on est heureux, ce régime pourri est tombé.
17 janvier
2011. On est dans la liesse.
Là-bas, si j'y suis, est inconsolable, Ben Ali s'en va.
Ouais, alors il vient de quitter le pays.
Oui, il a quitté le pays, il est parti, il est tombé. C'est un petit sentiment très fort qui fait que le Tunisien est fier d'être Tunisien, fier d'appartenir à ce peuple civilisé qui a délogé un dictateur sans utiliser un seul coup de feu et en recevant de nombreuses balles. Et nous partageons cette joie que nous vivons aujourd'hui avec vous.
Siem, je t'embrasse.
Merci, merci.
Bonjour Daniel, voilà nos démocraties décadentes contraintes de prendre le parti des peuples contre ces dictateurs dont elles s'accommodaient très bien auparavant. Ah, ces peuples qui pour leur liberté et leur dignité font tout basculer, sans prévenir en plus, c'est bien embêtant. Et oui, nos intérêts, le pétrole, Israël et tous ces immigrés en puissance qui vont nous envahir. On croyait qu'on en avait fini avec les révolutions. Et si ça réveillait les peuples endormis ? En plus, on va être obligé de créer un État palestinien. Quel chien-lit ! Salut Daniel, merci pour ton émission courageuse. Une dame de 76 ans qui n'a jamais cessé de se révolter.
Bonsoir, il est 21h30. On est le lundi, je suis en train de regarder Al Jazeera. Ils sont en train de nous faire passer des images atroces des corps mutilés, cramés, carbonisés, morts, déchiquetés par les balles, par les aviations qui est tirées sur le peuple libyen. C'est des photos, c'est horrible à voir. Même ils étaient masqués dans certains cas pour ne pas toucher la sensibilité des gens. Vraiment, c'est catastrophique, catastrophique. S'il vous plaît, le monde entier, faites quelque chose. Arrêtez ce fou, il est en train d'exterminer un peuple civil innocent. S'il vous plaît, faites quelque chose, faites quelque chose. C'est très très atroce ce que je vois, c'est impossible de ne pas réagir, c'est impossible, c'est impossible. Bonsoir à vous et bon courage.
Tunisie, Égypte, Libye, c'est pas encore gagné mais ça va pas tarder, Jordanie, Yémen, Maroc, il serait temps que ça commence, Algérie, il serait temps que ça finisse, le monde arabe se réveille et il a bien raison. Ah, ils sont forts, hein. Eux avec juste 1 million dans la rue, ils renversent une dictature. Nous avec 3 manifs de 3 millions, on n'a pas été capable de sauver nos retraites. Déjà, ils nous ont tout appris les Arabes. Les chiffres, l'astrologie, la médecine, les loukoums, le couscous. Aujourd'hui, ils nous apprennent à être efficaces dans les manifs. Ils nous réapprennent le pouvoir du peuple. Faut les faire venir ici. Je comprends qu'on leur donne pas de visa. En 8 jours, ils mettent Allo Ali. Nous, en 4 ans, on a toujours Nicolas. S'il débarquait, il n'emmènerait pas large, Sarko le pharaon. Faut aller les chercher, en barque, en mobilette, en taxi de la Marne. Bienvenue les Tunisiens, welcome les Égyptiens. D'autant que quand ils ne sont pas tout à fait satisfaits du nouveau gouvernement, ils redescendent dans la rue et le virent à nouveau. Nous, sans sourciller, sans même s'étonner, on se recoltine, Juppé et Longuet. Et avant de nous coucher, on écoute notre marchand de sable à nous, Nicolas, nous faire son discours du soir. Un quart d'heure pour ne rien dire. Quoi de mieux pour s'endormir ? C'était un message de Pascal, de Lyon.
Bonjour, c'est Doudouche, arabe et fière de l'être, mais blessée à vif par les propos de Bernard Kouchner dans l'émission d'Arlette Chabot du jeudi 3 mars. Alors qu'est-ce qu'il a dit ? Nous avons tellement cru que quelque chose chez eux, chez les Arabes, aspirait à la servitude, qu'ils n'avaient pas l'envie de la démocratie. Waouh ! Alors j'ai couru après ces propos voir le calendrier. Oui, nous sommes en 2011. 2011 et non pas 1811. Ah ah, back to the future ou retour au futur, je ne sais pas quoi dire. Est-ce vraiment ce que pense le monde occidental des peuples arabes? Ouf, des esclaves prédestinés à la servitude. Quelque chose comme ça. Waouh, c'est fort. Quel respect pour ce monde arabe. Mais bon, venant de Kouchner et connaissant le personnage... Enfin, quelle déception. N'empêche, le géant arabe se réveille et avec lui les consciences du monde entier se réveillent aussi. Et moi, je suis Doudouche, arabe et fière de l'être. Merci beaucoup. Au revoir.
Wanna make me go throw that rock. First things first, get me a job. Then let's talk about my hijab. It's lockdown, like shit and I wanna lock this down. No quick, no mouse, we burn your house. Kids, spouse, everybody gonna fucking be knocked out. Queen gang, keep us tame. Yes, we're crazy in the range. Diesel rage, I hate to say. Tyrants gotta be locked away. They wonder why we so raw. We eat raw, breathe raw. Why you think we feel raw? Cause we sick and tired of the law. Not on my side, I beat my speech. As we speak, they send their fleets. Kill, crush all our dreams. Staying alive will be your only treat. Everybody stop your feet. Tired of being true like me. Call it Jasmine Revolution. Lost world, we are the solution. This shit don't smell like flour. It's the rise of people power. Welcome to the world streets where the heart beats. In times like these, these are our lives. We feel alive. Get out of here. It's not time to shine. Back down, move our rock. Back down. Back down, move our rock. Back down. Back down, move our rock. Back down. Can't dictate, just back down. Back down, move our rock. 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 Back down.
Mermet nous parle des palaces qu'il y a en France, ou à Paris peut-être seulement, c'est le début de l'émission. Il vient de faire la présentation très subsonne de Bristol, mais il a oublié de dire une chose, c'est con ça, soit je suis raciste ou c'est lui qui l'est, mais il a oublié de préciser que la plupart des palaces, même tous les palaces de France, n'appartiennent plus à des Français, ou n'ont peut-être d'ailleurs jamais appartenu à des Français. En tous les cas, ils n'appartiennent pas à des Français. Je crois que pour beaucoup, ils appartiennent à des... Arabes, je crois. Faudrait le dire, ça, hein. Il n'y a pas que des Arabes qui travaillent dans les champs.
Et bonjour, je m'appelle Aude et je me permets d'intervenir parce que je ne comprends pas que l'État fasse des mosquées. À quel titre l'État devrait faire des mosquées? C'est quand même incroyable. Il me semble que l'Église n'a pas été construite par des deniers de l'État. Et donc, c'est complètement ahurissant d'entendre ça. Qui plus est, on n'a pas d'argent pour mettre du personnel dans les hôpitaux, pour mettre du personnel parmi les enseignants. Et on voudrait réclamer des mosquées. Non, mais on faut qu'on arrête le délire, quoi. C'est infernal. Des mosquées, non merci, quoi. Sans être raciste ni quoi que ce soit, les églises chrétiennes, elles n'ont pas été élevées avec les deniers de l'État. Donc, je ne comprends pas qu'on puisse en réclamer pour les mosquées. Voilà. Je suis vraiment très énervée. Au revoir, merci.
Est-ce que vous pouvez être con, mon pauvre monsieur Mermet? Vos opinions, vous les gardez déjà pour vous, au lieu de les étaler sur France Inter. Le jour où vous serez viré, eh ben, alors ce sera un grand bien. De toute façon, on a le droit de voir le visage des gens. Et puis on est en France, les règles, elles sont pareilles pour tout le monde. Ça serait l'inverse. Eh ben, nous, on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça à l'étranger. Donc sans racisme, sans aucun, les règles, elles doivent être respectées, puis c'est tout, on a encore le droit de voir à qui on parle, et je sais pas, c'est une question aussi de franchise, voilà. Maintenant, vos opinions, vous les gardez pour vous. Voilà.
Bonjour, Jérémy Gagnard. J'ai honte, monsieur Mermet. J'ai vraiment honte de cette France, j'ai 26 ans, et ça fait 2 ans que je vous écoute, et 2 ans que j'ai honte d'entendre tous ces gens sur ce répondeur, se plaindre. Il faut se bouger le cul, quoi. Il y a du boulot pour tout le monde, il suffit de le chercher. Tous ces syndicalistes qui se battent pour des causes déjà, qui étaient déjà acquises avant et qui en veulent toujours plus. Comment tu en avoir marre, quoi. La France est en dette et tout ce que vous trouvez moyen de faire, tout ce, autant que vous êtes, c'est de vous plaindre et de réclamer toujours plus. Avant, les gens, ils ne mangeaient pas des plats cuisinés achetés à Intermarché à bas prix. Ils se contentaient de ce qu'ils avaient et ils bossaient et ils fermaient leur gueule, quoi. Au moins, jusqu'à temps que la France relève la tête, bossez, fermez vos gueules, quoi. Faites vraiment chier. Cette émission fait vraiment chier, des fois. Putain.
Bravo, Daniel, pour ton émission d'aujourd'hui, le 27-06-2011, et en particulier pour la dame espagnole. Elle avait totalement raison. Si on n'aime pas la France, on la quitte. Cassez-vous. Allez, tuez, volez, droguez, flinguez, chez vous. C'est tout. Au revoir.
Voilà, voilà. Il n'y a pas que des convaincus qui écoutent là-bas si j'y suis. Il y a aussi voilà, des opinions et des points de vue différents et qui s'expriment dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis chaque jour. On ne vous les passe pas chaque jour, ça c'est vrai. Mais bon, là c'est la fin de la saison, on vous en fait profiter. Mais il y a aussi d'autres sons de cloche dans cette boîte vocale.
Mesdames et messieurs, en ce dimanche 20 février, le cirque DSK, accompagné de son monsieur loyal, vous invite aux alentours de 20h sous le grand chapiteau télévisuel à assister à son nouveau spectacle plein de tours inédits. Passé maître dans l'art de la presse, tidigitation, il vous fera entrer dans le monde féerique de l'Union européenne. De ses mains habiles, il fera disparaître devant vos esprits ébahis toute trace de souveraineté nationale et de réelle démocratie, puisque les cartes sont truquées depuis plus de 60 ans en faveur d'une gouvernance mondialiste. Ce conglomérat de magiciens financiers et politiques, cette élite de voleurs de foule, de trafiquants de conscience, avant de nous enchaîner définitivement, nous, troupeaux de bétail ignorants, apeurés et somnolents, à son diktat financier via la crise, n'hésitera pas à écraser nos esprits sur l'écran plein de nos servilités à coups de rouleaux compresseurs médiatiques. Il n'y a déjà plus que deux candidats validés pour l'arène présidentielle. Faites vos jeux. Les médias français, fidèles serviteurs du barnum politique, nous offriront un très grand numéro d'hypnose nationale. Voilà. C'est le message d'un homme du Parti de la Conscience qui pleure une humanité perdue dans des simulacres de liberté et de démocratie. Post-scriptum, la vérité nous rendra libres et je vous aime beaucoup là-bas quand j'y suis. Au revoir.
Salut Daniel Mermet, salut toute l'équipe, merci de vos émissions. Et en fait, j'appelais pour faire une petite remarque. Vous savez, quand on est dans une piscine municipale, par exemple, et qu'il y a quelqu'un qui est en train de se noyer, si on y va et qu'on fout la tête d'un bonhomme sous l'eau et qu'on appuie avec le pied pour qu'il se noie, on se fait engueuler, en fait. On se fait même virer de la piscine municipale par le responsable maître nageur. Et quand on est dans une rue et qu'il y a une petite vieille qui traverse la rue et qu'elle a du mal à traverser, et si on accélère avec la voiture et qu'on va la percuter et qu'on l'écrabouille et qu'on recule pour la réécrabouiller et tout ça, après on part en prison, il y a des flics qui viennent nous arrêter, on part en prison. Par contre, au niveau international, quand une économie entière se casse la gueule parce qu'un pays se noie et subit un tremblement de terre et peut-être un grave accident nucléaire, bah là on trouve ça absolument normal que la bourse lui mette la tête sous l'eau. Je veux dire, c'est normal. Les mecs, ils ont plus envie de miser, c'est un mauvais cheval, c'est un cheval boiteux, il faut lui mettre une balle. Voilà, voilà, c'est comme ça que le monde économique. Alors, je me disais, une petite remarque comme ça, les choses comme ça qui nuisent à l'humanité, on a su s'en débarrasser jusqu'à maintenant. Par exemple, à l'époque, les chrétiens, ils avaient inventé le bûcher pour brûler les sorcières, tout ça. Et puis quelques années ou quelques centaines d'années après, on s'est dit, mais en fait, le bûcher, ça nuit à des gens, ça fait des souffrances et ça résout pas grand-chose. Et du coup, on a interdit les bûchers. Hein ? La guillotine aussi, elle a vachement servi et tout ça. Et puis après, on a interdit la guillotine. On a dit, bon, c'est quand même pas très humain tout ça. Alors, bah, je sais pas, la bourse, quand est-ce qu'on la ferme ? Salut.
Donc, la ville
France 3
qui a été retenue par le conseil d'administration
18 mars 2009
est la ville d'Annecy.
Annecy, élue dès le premier tour de scrutin par le comité national olympique.
Là-bas, si j'y suis, février 2011.
Annecy sera candidate pour organiser les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver en 2018.
En fait, c'est pas les jeux qui payent les jeux, c'est bien les habitants qui payent les jeux.
On va se battre tous ensemble.
Nicolas Sarkozy.
Pour essayer de les gagner.
11 février 2011.
Mais c'est comme ça, si vous saviez, si dans la vie, mais chacun ici, c'est bien. Si dans la vie, on ne tentait que ce qu'on était sûr de réussir, mais on reste couché toute la journée. C'est parce que... Si vous saviez, moi, pour devenir président de la République, c'est un très long chemin. C'est pire pour les JO d'Annecy. Alors vraiment, il n'y a personne qui croyait.
Les JO, pas encore une réalité pour Annecy, déjà du rêve pour la jeunesse.
Edgar Grandpierre.
C'est de voir déjà dans leurs yeux qu'il y a des étoiles. Il y a des regards comme ça, super lumineux, et c'est fantastique.
26 ans après Albertville, Annecy veut accueillir les Jeux d'hiver. Au programme, le ski alpin Chamonix, Morzine et Avoria, le bobsleigh à la Plagne, le ski nordique à la Clusaz et au Grand Bornan.
Il y a des gens qui sortent des banderoles au bord de la route tout de suite, les flics arrivent.
L'objectif final, c'est de pourrir la candidature. Cette candidature, elle soit montrée sous son vrai visage et pas celui qui veut être présenté par les promoteurs.
Vous savez, hein, quand les Jeux sont partis, hein, qu'ils en veulent, qu'ils en veulent pas, la piscine patinoire, sauf pas. Hein. Voilà.
Bonjour, c'est Alain de Haute-Savoie, Marna, pour être précis, qui souhaite réagir sur la candidature d'Annecy 2018 aux Jeux Olympiques. On la veut pas, cette candidature, il faut être clair. Hein. Moi, je suis un ancien moniteur de ski, mon fils est moniteur de ski, je passe mon temps à courir la montagne. On en a marre des pollutions de toute nature, particulièrement dans la vallée du Mont-Blanc, où on subit un camion toutes les 3 minutes. On en a marre de la pollution, notamment de l'usine de Passy, et on voudrait bien que nos agriculteurs qui font encore vivre la plaine de Passy ne soient pas expropriés. Malheureusement, quand on tente d'aller le dire aux gens du CIO qui se sont déplacés jusqu'à nous il y a une dizaine de jours, eh bien, malheureusement, on est évacué manu militari par les forces de l'ordre. C'est un véritable déni de justice. Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'on crève sous le pognon en Haute-Savoie. On crève sous le pognon. Je n'exagère pas, c'est la vraie réalité et on en voudrait encore plus de quantitatif pour encore moins de qualitatif. Il y en a franchement marre. Moi, personnellement, en tant qu'amoureux de la montagne, si les Jeux Olympiques ne sont pas accordés à Annecy au mois de juillet prochain, en ce qui me concerne, ce sera Champagne. Merci pour votre émission, Daniel Mermet.
Nouveau plan social à France Télécom. Un suicidé sur deux ne sera pas remplacé. Salut.
Bonjour, je vous téléphone à propos de l'émission sur les chroniqueurs qui sont passés hier et avant-hier. Pour moi, cette époque, c'est une Madeleine de Proust d'un enfant de 10 ans, même de moins de 10 ans. J'écoutais Geneviève Tabouy sur Radio Luxembourg, 1293 mètres grandes ondes, avec le poste à lampe de ma grand-mère. Avant, si j'ai bonne mémoire, il y avait une émission dont le titre était déjà tout un programme, Le passe-temps des dames et des demoiselles. Puis venait Geneviève, sa voix si particulière et ses formules du genre, attendez-vous à savoir que Nikita Khrouchtchev, avant de se rendre à l'Assemblée générale de l'ONU, passera par différentes capitales de l'Est, dont Budapest et Berlin, pour leur rappeler qu'ils font partie du pacte de Varsovie. Et la conclusion ? C'était les dernières nouvelles de demain à la semaine prochaine. Voilà, un petit témoignage loin des réflexions politiques pour montrer comment ma génération, je suis né en 49, a été marquée par la radio. Bernard Delila à l'époque.
Bonjour Monsieur Mermet, bonjour aux AMG. Alléché par votre annonce de consacrer l'émission aux chroniqueurs ou groniqueurs selon votre excellente expression, vous m'avez déçu. Après votre attaque très peu confraternelle d'Éric Zemmour, au prétexte d'une condamnation à laquelle vous aviez vous-même échappé de très peu, après une prédication un peu réchauffée sur la défense de la liberté d'expression, car dois-je vous le rappeler, vous, bon marxiste que vous êtes, la différence entre les libertés formelles et les libertés réelles. Si vous invitiez dans votre émission de véritables opposants à vos options idéologiques et politiques pour de vrais débats, vous passeriez de la théorique liberté formelle à la bien concrète liberté réelle. Après une caricature de Michel Droit, vous avez consacré l'essentiel de l'émission au duel de Philippe Henriot et de Pierre Dac pendant la guerre civile européenne de 39-45, bien loin de l'actualité. N'aurait-il pas été plus intéressant d'enquêter, comme vous le faites si bien habituellement, sur les chroniqueurs actuels qui monopolisent depuis si longtemps les temps d'antenne ? Philippe Meyer, Alexandre Adler, Alain-Gérard Slama, Bernard Guetta, Marc Scravette, Caroline Eliachev, Caroline Fourès, Clémentine Autain, Flore Vasseur, Daniel Salnave, Alain Duhamel, Claude Ascolovitch et bien sûr Éric Zemmour. Comment sont-ils recrutés? Qui sont-ils? Quels intérêts représentent-ils? Dommage d'être passé à côté du sujet. Post-Christum, contrairement à ce que vous avez dit, Philippe Henriot n'a pas été fusillé à la Libération. Il a été assassiné le 28 juin 1944 par des hommes de main que Pierre Dac appelait de ses voeux dans ses chroniques. Façon originale de défendre la liberté d'expression de ses adversaires. À bientôt.
Juif, arabe, juif, arabe, arabe, juif, juif, arabe, ensemble, ensemble.
Voilà, ça y est, c'est la fin d'une vieille opposition. Le Japon vient de nous prouver que ça pouvait être le nucléaire et la bougie. C'est fantastique.
Tu me fais tellement de bien. Oh, je suis très heureuse. Oh, c'est toi, t'es extraordinaire. Toi, mon champignon nucléaire.
Une explosion possible est impossible pour deux raisons. La première, c'est que ça n'est jamais arrivé, et la seconde, c'est que ça n'arrivera jamais. Dans le domaine nucléaire, plus que dans tout autre, la sécurité est basée sur la foi. C'est chier, non?
Salut à tous, c'est Pierrot des Bouches-du-Rhône. Je vous appelle parce que ma fille va avoir un an jeudi, le 24 mars, et devinez ce que je lui ai acheté pour son anniversaire. Je lui ai commandé un nuage nucléaire. Et quand j'ai dit ça à ma femme, elle était stupéfaite, elle m'a dit « Mais non, mais tu as acheté ça, mais c'est fou !» Mais le premier problème qu'elle a pensé, c'est « Mais comment on va faire pour aller le chercher ?» Mais je lui dis « T'inquiète pas, c'est le dernier modèle, celui-là, il n'y a plus besoin d'aller le chercher à la frontière, il le livre chez nous !» C'est fabuleux. Voilà, donc pour que ma fille ait un bon départ dans sa vie, je lui ai offert un nuage nucléaire. Et en plus, ce qui est chouette, c'est que on n'habite pas loin de Kadara chez Dieter, et du coup, j'ai déjà une petite idée pour ses 20 ans. Voilà, ben, vive la France, c'est beau de rêver. Et oui, ça arriva, il y a rêve. Si ce cauchemar, ça faisait trop long. Voilà, salut.
Là-bas, si j'y suis, mai 2011, Hiroshima.
Nous vous prions, Seigneur, pour que cette guerre prenne fin vite et que la paix règne à nouveau sur la terre.
Enregistrement à bord de l'Enola Gay, avion qui lança la bombe sur Hiroshima le 6 août
1945. Prenez sous votre protection les hommes qui seront dans cet avion ce soir. Qu'ils nous reviennent sains et saufs.
We shall go forward, trusting in thee.
Nous irons jusqu'au bout, avec toute notre foi en vous.
Knowing that we are in thy care now and forever.
Nous savons que nous sommes sous votre protection, aujourd'hui et pour toujours.
In the name of Jesus Christ, amen.
Au nom de Jésus-Christ, amen.
Thank you.
je me réveillais sous une lumière resplendissante. Le jour du 6 août s'était levé. Il était 8h10. Le ciel bleu d'août brillait sans un nuage. À une altitude extraordinaire, un bombardier B-29 apparut, étincelant comme l'argent. Il semblait voler très lentement en direction de Hiroshima. À cet instant, un éclair éblouissant me frappa à la face et me transperça les yeux. Une chaleur violente s'abattit sur mon visage et mes bras. En un instant, je me retrouvai au sol, le visage dans les mains, essayant instinctivement de fuir dehors. Je pensais y trouver des flammes, mais je ne vis que le ciel bleu entre mes doigts. Les feuilles ne bougeaient pas d'un pouce. Je regardais alors en direction de Hiroshima. Un grand cercle de feu flottait dans le ciel, un anneau gigantesque qui s'étendait au-dessus de la ville. Immédiatement, une masse de nuages blancs se forma au centre de l'anneau et se mit à grossir rapidement, se déployant toujours davantage dans le cercle incandescent. En même temps, un long nuage noir apparut qui recouvrit toute la surface de la cité, puis se répandit sur le versant de la colline, s'éleva au-dessus de la vallée de l'Ota, vers le village d'Esaka, submergeant tout, les bois, les bocages, les rizières, les maisons, les fermes. C'était un énorme cyclone soufflant la poussière et le sable de la ville. Soudainement, un frisson me parcourut le dos et une peur étrange m'envahit. Qu'est-ce que c'est? À quoi suis-je en train d'assister? J'avais devant les yeux un phénomène inconnu, un événement inédit, et toute l'expérience de mes 28 années d'existence ne m'était d'aucun secours. Près de moi, une jeune mère au visage brûlé portait son bébé sur le dos. Elle était en larmes et ne cessait de me supplier. Elle m'a répété sa prière tant de fois que je me souviens parfaitement de chaque détail. Sa maison avait été envahie par les flammes en l'espace d'une seconde. Alors, abandonnant ses 3 enfants qui périrent dans l'incendie, elle s'était enfuie avec le plus jeune en le portant sur son dos. Ce bébé était tout ce qui lui restait. Il remplaçait ceux qu'elle venait de perdre. « S'il vous plaît, docteur, s'il vous plaît, docteur, aidez mon bébé, s'il vous plaît », répétait-elle sans trêve. Le bébé devait avoir 1 ou 2 ans. Il était déjà mort. Je pris le bébé dans mes bras. Il n'y avait aucune trace de brûlure sur sa peau froide. « Tout va bien », dis-je à la mère. « Ne le réveillez pas cette nuit et dormez bien vous aussi, pour avoir beaucoup de lait demain matin. » La jeune mère joignit les mains et les tendit vers moi, puis elle partit, Dieu seul sait où, tenant son bébé mort sur sa poitrine en sang. Extrait de Little Boy, récit des jours de Hiroshima, Dr. Shuntaro Hida.
Like play a peace title. Oh Lord, don't let them drop that atomic bomb on me.
Sunny August morning, Hiroshima had no premonition of its fate. On Tinian Island in the Marianas, a B-29 named the Enola Gay prepared to make the first atomic bomb run. Over Hiroshima and Nagasaki, the course of world history took a new turn. The new weapon blasted the enemy completely out of the war. Japan no longer had the will to fight.
Don't let him drop that bomb on me. Oh Lord, oh Lord. Don't let him drop it. Don't let them drop it, stop it.
bebopping.
Hiroshima, 13 septembre 1945. J'ai reçu la visite d'un employé des affaires générales qui avait la grave responsabilité de veiller sur l'effigie de l'empereur. Il se trouvait dans un autobus au moment de l'explosion. Aussitôt, sans prendre garde au mur qui s'abattait autour de lui, il a couru jusqu'au ministère pour gagner l'incendie de vitesse. Le portrait de l'empereur se trouvait au 4e étage. Avec l'aide de plusieurs collègues, il décida de le transporter au château d'Hiroshima parce que de ce côté, on voyait s'élever moins de fumée qu'ailleurs. Un de ses collègues le chargea sur son dos, un autre prit les devants. Et le cortège se mit en route. Mais lorsqu'ils arrivaient au château, un soldat leur dit que l'incendie menaçait et ils rebroussaient chemin vers les digues de la rivière Ota. Il y avait tant de morts et de mourants sur leur chemin qu'à la fin, ils furent obligés de s'arrêter. Alors ils se mirent à crier « Le portrait de l'empereur ! Le portrait de l'empereur !» Aussitôt, tous ceux qui pouvaient encore marcher ou seulement faire un geste saluèrent et s'écartèrent. Et ainsi, le portrait de l'empereur put miraculeusement passer et être déposé en lieu sûr. Tu l'avais cru détruit par le feu. Cette nouvelle m'a fait chaud au cœur. Le journal de docteur Michiko Hachiya, 1951.
TF1, 6 août
1985.
Paul Tibbets.
I have no regrets.
Pilote de l'Enola Gay.
J'ai fait ce que l'on m'a dit de faire et je dois ajouter ceci. Je n'ai pas de regrets et je n'ai jamais perdu une nuit de sommeil depuis. Je me suis dit en moi-même, il n'y a aucun moyen pour qui que ce soit de résister à une telle arme et avec cette pensée en tête, j'étais convaincu que j'atteindrais ma cible, que nous gagnerions et que nous conduirions la guerre à sa fin en sauvant de nombreuses vies. Je reconnais aussi l'envers de l'histoire. Il fallait sacrifier beaucoup de vies humaines, mais c'est le prix de la guerre.
Septembre 1945. Cet après-midi, nous avons eu la visite de deux groupes de soldats américains. Les premiers ont examiné avec beaucoup d'attention tout ce que je leur ai montré. L'un de ces soldats doit être maître d'école dans le civil, parce que chaque fois que j'essaie d'expliquer quelque chose dans mon mauvais anglais, il me reprend pour corriger ma prononciation. Les seconds ont amené un interprète. L'un d'eux, debout devant une fenêtre, dit tout à coup « Et vous, que pensez-vous du bombardement ?»« Je suis un bouddhiste, lui ai-je répondu. Et depuis l'enfance, on m'a appris à me résigner. J'ai perdu mon foyer et ma santé, mais je me considère comme un homme fortuné puisque ma vie et celle de ma femme ont été préservées par le ciel. Je ne puis partager vos sentiments, dit alors le jeune américain d'un air sombre. À votre place, il me semble que Dieu ferait au pays responsable un procès en dommages et intérêts. Il reste encore un long moment à contempler nos ruines par la fenêtre avant de s'en aller. Longtemps après, il m'a semblé l'entendre encore parler, faire un procès au pays, faire un procès. J'ai eu le sentiment que ces mots demeuraient pour moi à jamais incompréhensibles. le journal de docteur Michihiko Hachiya, 1951.
Voilà des extraits de la série que nous avions consacrée à Hiroshima avec Yuki Takahata, qui lisait ces textes. On continue avec les répondeurs, les messages que vous avez laissés dans le répondeur de là-bas, si j'y suis, au cours de cette saison, à la recherche, à la quête du répondeur d'or.
Déclaration solennelle du comité Désir de Dominique Strauss-Kahn. Nous avons été les premiers à proposer la candidature de DSK au présidentiel. Nous connaissions sa haute stature morale, éthique, son train de vie modeste, proche du peuple, ses options bien à gauche. Souvenez-vous de notre slogan « Pour battre la droite, il faut un candidat de droite ». En ces heures difficiles, nous pensons surtout à lui. Oublions l'agent des services secrets qui lui a tendu le piège sexuel que l'on sait. Nous pensons aussi à son épouse, fille de prolétaires américains. Nous invitons tous nos amis au silence et à la retenue. DSK peut s'en sortir. Il n'est pas un jeune beurre. Nous allons mettre à sa disposition l'aide judiciaire. Nous tenons à remercier la plupart des médias écrits et parlés, les politologues, les journalistes, les leaders d'opinion, les grands intellectuels qui ont contribué à faire de Dominique le candidat le mieux placé pour battre la droite et le champion du vote utile. La nouvelle les a sidérés. Ils ne savaient pas à quel point Dominique était au-dessus de tout soupçon. Nous appelons au soutien public de DSK contre la machination politico-judiciaire dont il est victime. Voici le texte de la pétition. Je mets mon espoir dans DSK. Je suis sûr de sa parole. C'était Jean de Pau.
France Inter, flash spécial. Alors merci Daniel Mermet de nous laisser un petit peu de son temps. On va essayer de faire vite. Flash spécial, Dominique Strauss-Kahn. Nous sommes actuellement en direct de New York, devant l'appartement de Dominique Strauss-Kahn. Enfin, appartement, bon, c'est un euphémisme. Et nous venons d'apprendre qu'il vient sur son iPad de jouer une partie d'échecs. Alors, dès que nous avons plus d'informations, évidemment, nous n'hésiterons pas à couper les émissions ultérieures, le carrefour de l'Odéon, etc. Mais pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, alors, d'après les correspondants et les messages qu'on a sur les réseaux sociaux, vous voyez de quoi je veux parler, il semblerait que Dominique Strauss-Kahn ait avancé le fou et qu'il soit sur le point de perdre un cavalier dans sa partie d'échecs. Alors, on va bientôt rejoindre nos envoyés spéciaux qui sont partout, surtout en Russie. Pourquoi en Russie ? Parce que c'est évidemment là-bas qu'il y a les plus grands spécialistes du monde des échecs. Et donc, on va discuter avec Kasparov pour voir si ce coup peut peut-être avoir une influence sur son procès. Est-ce que ça peut témoigner, M. Kasparov, peut-être d'un homme déstabilisé, de quelqu'un qui actuellement aurait du mal à mener la partie jusqu'au bout, et est-ce que ça pourrait peut-être finalement profiter à la présumée victime ?
Oui, je crois. C'est effectivement, actuellement, ce qui peut se passer, c'est que si Dominique Strauss-Kahn rate ses échecs, c'est un homme qui est parfaitement perturbé, même s'il a une cravate et une femme, et il est perturbé, et à cause de cette perturbation, peut-être perdre son procès, même s'il est innocent.
Alors, merci beaucoup pour cette analyse, Monsieur Kasparov. Dès que nous avons d'autres informations, nous n'hésiterons pas, bien entendu, à couper Daniel Mermet dans son émission. Merci, Daniel Mermet, de nous avoir passé un petit peu de votre temps. Oh, 2 minutes, c'est si peu. C'est mieux qu'une demi-heure. Au revoir. Oui, merci à Daniel Mermet de nous laisser un petit peu de son temps. Ultime rebondissement dans la partie d'échecs qui oppose actuellement DSK à son iPad. L'iPad vient de s'éteindre. L'iPad vient de s'éteindre faute de batterie. Alors en quelque sorte, eh bien, on peut dire que c'est une partie qui se termine comme ça par une procédure de nullité. Hein. Bon, alors c'est un iPad modèle américain. Alors nous, on est spécialistes des iPads français. Donc effectivement, on est parfois un petit peu perdu là-dedans. Mais on va faire appel à des spécialistes. D'ores et déjà, il faut préciser que Steve Jobs, le PDG d'Apple, est présumé innocent dans cette partie qui a causé la perte de Dominique Strauss-Kahn aux échecs contre son iPad. Alors, plus d'informations dans un instant. Pour l'instant, je suis en direct avec la rédaction de nos confrères qui se trouvent actuellement dans les chiottes de Dominique Strauss-Kahn où, a priori, il y a du nouveau, oui. Ah, on me dit que Dominique Strauss-Kahn a balancé de colère
son iPad dans ses chiottes et qu'il a même tiré la chasse. Écoutez, l'info est à vif, l'info est à chaud, on reste sur le qui-vive et merci à Daniel Mermet de nous laisser interrompre son émission n'importe quand pour n'importe quoi. A plus tard.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici la finale présidentielle. À gauche, à gauche, à gauche, tout le monde à gauche. À gauche, à gauche, 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 gauche. Strauss-Kahn va gagner, la gauche elle va passer. Strauss-Kahn va gagner, la gauche elle va passer.
Le Pen qui est énervé.
Donne-moi du plaisir, dit la femme à Languille, à l'objet du désir d'un ton plein de mépris. Et quand de ton devoir tu seras libéré, tu pourras pour un soir t'endormir à mes pieds. De votre cul qui baille, je ne suis ni le boy, ni le brave cobaye, répondit le sextoy. C'était le poète lascif. Enfin seul, la partouze est finie. Nos amis sont partis, nous sommes enfin seuls. Ça te dit un Scrabble ?
Bon, ben c'est Francine. On ne peut pas dire que Georges Philippe soit Rimbaud, mais on ne peut pas lui ôter un certain sens de la rime. Bonne journée.
Fini avec le poète consternant, récemment apparu dans le répondeur, Georges Philippe et Francine, voilà, des tout petits messages, très brefs, et tout à fait consternants, il faut bien dire les choses. Alors, les amateurs de Claude sont déçus, mais comment ça, hein, 2 jours de répondeur d'or et pas de Claude, qui est le meilleur, évidemment, dans cette discipline. Eh bien, c'est parce qu'il est le meilleur dans cette discipline qu'on ne l'a pas sélectionné aujourd'hui, ni hier. Mais on le retrouvera, évidemment, dans les jours qui viennent, d'ici à vendredi. Et puis, on a beaucoup de messages formidables qu'il a laissés jusque-là dans les mémoires de nos AMG, auditeurs et auditrices modestes et géniaux et géniales. Voilà. Merci à tous et à toutes, et également bravo à Marina Touyès qui a participé à la sélection de ces messages d'or. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Dofar Guérid et Jean-Philippe Jeanne, Coyen Guyenne et Franck Adhérère ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebot. Et Marina attend encore vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Vous connaissez le numéro, 01 56 40 37 37 jusqu'à vendredi. Après, on ne sait pas, on vous dira ce qui se passera par la suite d'ici à ce dernier jour de la saison. Vendredi, réclame.
À l'approche de l'arrivée, le Français est toujours devant. Allez, faut tenir, oui. La France tient sa première médaille d'or en Super G.
aujourd'hui 17 février 2018, au pied du Mont Blanc.
Pour que le rêve devienne réalité, nous avons besoin de vous maintenant. Le 6 juillet prochain sera choisie la ville qui accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver en 2018. Soutenez la candidature sur annecy2018.com. Annecy 2018, la neige, la glace et vous.
Radio France, supporter d'Annecy 2018.
Attention, vendredi dernier, le jackpot Euro Million n'a pas été gagné. Ce mardi, il atteindra près de 132 millions d'euros. Voir règlement sur fdj.fr.
Euro Million, et si votre vie devenait infiniment plus riche? Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Allô, le conseiller gaz de France Dolce Vita?
Oui, bonjour.
Bonjour. Voilà, je déménage et je vais encore me perdre, moi, avec mes différents contrats.
Ah, pas forcément. Non seulement on peut se charger de votre contrat de gaz naturel, mais aussi de votre contrat d'électricité. Avec Gaz de France Dolce Vita, une seule facture pour vos deux énergies.
Ah bah oui, ça m'arrange.
Et en plus, les frais de mise en service sont offerts jusqu'au 31 juillet.
Alors ça, c'est gentil.
Offre soumise à condition. Appelez le 0800 228 229. Appel gratuit depuis un poste fixe.
Gaz de France Dolce Vita, une marque de GDF Suez.
L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
Êtes-vous certain de la sécurité juridique des actes que vous signez? Pax, bail immobilier ou commercial, création et transmission d'entreprise, pour garantir cette sécurité, le seul acte authentique, c'est l'acte de notaire.
Les notaires, sûrement et pour longtemps.
Rendez-vous sur notaire.fr.
Il y a des messages dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis, mais il y a aussi des messages écrits et j'en ai reçu un très bref, absolument splendide, qui dit « Il y a dans le jardin des arbres fous d'oiseaux ». On se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Angélique Bois. Salut.
Et on commence avec les quarts de finale dames du tournoi de tennis de Wimbledon avec la Française Marion Bartoli face à l'Allemande Sabine Lisecki. Fabrice Abgal, vous êtes en direct de Londres. Où en est-on?
Le match a débuté il y a maintenant 1h et 33 minutes et pour l'instant avantage à Sabine Lisecki. Tout simplement parce que l'Allemande a remporté le premier set sur le score de 6 jeux à 4, mais dans la deuxième manche 6 jeux à 5 en faveur de Marion Bartoli. Bartoli toujours en vie, mais Bartoli qui vient de frôler la défaite puisque Sabine Lisecki s'est procuré 3 balles de match à 5 jeux à 4 alors qu'elle était au service Sabine Lisecki, et ces 3 balles de match ont été sauvées par Marion Bartoli. Marion Bartoli qui continue de s'accrocher, qui ne lâche strictement rien, comme elle n'avait rien lâché au deuxième tour face à Dominguez Lino, comme elle n'avait rien lâché au troisième tour face à Flavia Pennetta. C'est le même scénario et là Marion Bartoli est en train de tout donner évidemment pour essayer de remporter ce deuxième set, pour égaliser à un set partout et pour pousser Sabine Lisecki dans un troisième set. On n'en est pas là pour l'instant, 6 jeux à 5 dans la deuxième manche, c'est Lisecki qui est au service, elle mène 30-15 sur sa mise en jeu.
Merci Fabrice Sabgral en direct donc de Londres. Un face-à-face tendu à Athènes entre la police et les manifestants. Des affrontements ont eu lieu sur la place devant le Parlement grec. Il y a au moins un blessé. Des groupes de jeunes ont mis le feu à des poubelles et brisé des vitrines en marge de la manifestation contre la rigueur organisée par les syndicats. Le mystère Xavier de Ligonnès reste entier. Une nouvelle opération de ratissage à Roquebrune-sur-Argence dans le Var n'a rien donné. Aucune trace, aucun bivouac n'a été retrouvé. Les enquêteurs pensent que ce père de famille soupçonné d'avoir tué sa femme et ses 4 enfants à Nantes s'est peut-être suicidé. Sa trace se perd en effet sur le parking d'un hôtel de la ville où on a retrouver sa voiture. Martine Aubry se lance donc dans la course à la présidentielle de 2012. Déclaration solennelle ce matin à Lille. La première secrétaire du PS est apparue assez émue. Elle se présente aux primaires internes à son parti, mais s'est déjà posée en candidate en vue de 2012. Elle a multiplié les « je veux » dans son discours, a parlé justice, progrès social, affiché ses valeurs transmises par sa famille, morale, sens de la justice, goût des autres, et ses convictions de toujours, je cite, « celle de la République et celle de la gauche ». Martine Aubry qui sera, je vous le rappelle, l'invitée de la matinale d'Inter demain matin à 8h20. Sauf surprise de dernière minute, Christine Lagarde devrait succéder à Dominique Strauss-Kahn à la tête du Fonds monétaire international. Le soutien apporté par les États-Unis à la ministre française de l'économie enlève tout suspense. Cette annonce devrait être suivie d'un remaniement express et resserré en France. 3 ministres sont pressentis pour lui succéder à Bercy. François Baroin, Bruno Le Maire ou encore Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, ministre de l'enseignement supérieur, qui a lancé un appel aux élèves de BTS empêchés dimanche dernier de passer une épreuve par d'autres élèves. Ils sont invités à se signaler sur le site de l'Éducation nationale à l'adresse du médiateur. Le ministère va réfléchir à la façon de ne pas les pénaliser. Les Causses et les Cévennes, inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est un territoire, mais aussi sa tradition pastorale qui a été distinguée. L'élevage non intensif des brebis, qui donne notamment le roquefort, et la culture des bergers qui ont façonné pendant des millénaires ces paysages. Il est 16h et bientôt 4 minutes sur l'antenne de France Inter. On retrouve Frédéric Lodéon, bonjour.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Quand on pense que de nombreuses œuvres ont disparu sous les bombardements, en ce qui concerne Jean-Sébastien Bach, par exemple, dans des incendies pour beaucoup de compositeurs, dont Haydn, ben évidemment, on peut avoir la tentation d'essayer de reconstituer certaines. Et pour Bach, on est assez libre parce que lui-même, il transcrivait volontiers les œuvres des autres. Alors voici un essai, une reconstitution d'un concerto pour hautbois en ré mineur, d'après deux cantates différentes du grand Jean-Sébastien Bach. L'interprétation au hautbois et la direction de l'orchestre sont assumées par Alexei Ogrinchuk, qui a gagné le prix du concours de Genève. Deux victoires de la musique ici même en France. C'est un superbe instrumentiste. Le voici avec l'orchestre de chambre de Suède. presto d'un concerto de Jean-Sébastien Bach qui n'existe pas. Il a été reconstruit, une reconstitution due à Arnold Mell d'après deux cantates. Donc concerto pour hautbois, remarquablement interprété par Alexei Ogrinchuk qui dirigeait en même temps l'orchestre de chambre de Suède, dirigé évidemment des bras, des épaules, du regard. Parce que quand on a les deux mains sur le hautbois, on ne peut pas tellement donner des signes. Mais enfin, on sait que Ogrinchuk est un homme qui entraîne les artistes autour de lui. Il a une grosse expérience, notamment comme soliste de l'orchestre de Rotterdam. Bref, un cador, comme on dit un peu partout d'ailleurs. Voici un autre cador, un personnage extraordinaire, présenté d'ailleurs avec un jean un peu élimé, comme c'est la mode, avec de gros godillots, et puis un air très séduisant, cheveux longs, Ilde Brando d'Arcangelo. C'est un baryton basse qui nous est présenté par Deutsche Grammophon, et il chante Mozart. Il faut dire qu'il dit que Mozart est son dieu et que sans lui, il n'aurait jamais aimé la musique ni la carrière, ce qui est évidemment plus difficile à accepter, la carrière, avec tous les déplacements, toutes les privations, surtout pour un chanteur. Donc un récital Mozart tout à fait extraordinaire, une voix suave, et je vous propose d'entendre un air des noces de Figaro, Non più Andrai. C'est Figaro qui en a assez de chérubin qui séduit toutes les dames. Alors chérubin va être envoyé à l'armée, et l'autre est tout content, il chante « Tu n'iras plus, papillon amoureux, voletant ça et là, nuit et jour troublé le repos des belles, Narcisse, petit Adonis d'amour, tu n'auras plus ces belles plumes, ce chapeau coquet et élégant, ces boucles, cet aspect brillant, ce joli